Donc, je m'appelle André-François Ruault, je suis romancier et essayiste, et j'ai écrit pas mal de plusieurs bouquins sur les littératures du merveilleux, ce qu'on appelle de nos jours la fantasy. Notamment, j'ai écrit celui-ci, Cartographie du merveilleux, chez Folio. Et puis, j'en sors un bientôt autour de la fantasy pour la jeunesse, autour d'Harry Potter et tout ça. Donc, c'est un sujet que j'ai vachement étudié, notamment parce que dans les années 80 encore, enfin au début des années 80, il n'y avait pas du tout de fantasy en France, de traduite. Alors déjà, ça me titillait vachement la curiosité. Qu'est-ce que c'était donc cette littérature? J'étais déjà fan de romans policiers et de science-fiction. Et ça m'étonnait, ça titillait mon intérêt de voir qu'il y avait une littérature dans les pays anglo-saxons qui se développait énormément. Et dont on n'avait pas, quasiment pas la moindre trace dans les rayonnages français. Donc je m'étais mis à lire en anglais pour pouvoir lire de la fantasy. Et puis bon, c'est quand même arrivé en France au bout d'un moment, avec un énorme retard. Et on a d'abord essayé de créer des termes pour définir ce genre littéraire qui était en émergence. Bon, finalement, on utilise l'américanisme fantasy avec un Y, qui n'est pas très très heureux en français, parce que fantasy, ça a un tout autre sens, évidemment, comme mot en français. Il faut savoir que fantasy, en anglais, en fait, c'était le mot qui voulait dire fantastique, à l'origine. Ce qui fait qu'ils ont reporté le problème, parce que maintenant, fantasy, ça veut dire merveilleux, et qu'ils n'ont plus de mot pour dire fantastique en anglais, ce qui n'est pas très pratique non plus, en vérité. Et donc, moi, quand j'ai commencé à bosser sur la fantasy, il y avait eu des propositions de termes, en particulier fantastique médiéval, mais fantastique médiéval, c'était vachement restrictif, parce que pourquoi médiéval? On peut très bien faire du merveilleux en dehors du Moyen-Âge. Et moi, j'ai proposé qu'on utilise le terme merveilleux, parce qu'il me semble que c'est la traduction la plus juste, enfin celle qui donne nous nos têtes de français. Merveilleux, on voit ce que c'est, quoi. Donc, littérature du merveilleux, on a déjà une bonne petite idée. Mais bon, vous étonnez pas si pendant ma conférence j'utilise aussi bien merveilleux que fantaisie. De toute façon, ce sont des synonymes. Hein. Donc j'ai cherché à réfléchir sur qu'est-ce que c'était que cette fantaisie, ce merveilleux qui débarquait dans les librairies, qui en France débarquait vers la fin des années 80, massivement. Maintenant, c'est vachement plus visible, la fantaisie. Pourquoi est-ce que c'est plus visible? Déjà parce qu'il y a eu Harry Potter, notamment, et que ça a vachement changé la donne, en fait. Et puis il y a eu le film du Seigneur des Anneaux et les films d'Harry Potter, évidemment. Donc désormais, même le français lambda doit avoir une certaine idée de ce que ça peut être que la fantaisie ou le merveilleux. À la fin des années 80, c'était pas du tout évident, hein. Et donc je me suis dit, bon, on va faire un peu comme une biographie. Quelle est l'origine? C'est né comment, cette affaire-là de littérature de merveilleux? Il m'a semblé que l'imaginaire s'est toujours exprimé en fait par le biais de la légende, comme si on avait besoin, nous, les êtres humains, on avait besoin d'une sorte de filtre fantastique ou merveilleux pour mieux s'expliquer à nous-mêmes la réalité. Donc j'ai cherché des racines de ce que serait le merveilleux en littérature. Évidemment, on pense tout de suite aux mythologies, mais les mythologies, c'est pas de la littérature au sens moderne. Les mythologies, c'était un processus de croyance religieuse qui a évolué essentiellement pour les cultes gréco-romains. Ça a évolué de l'édifiant au divertissant, au fur et à mesure qu'on y croyait de moins en moins, et ça a changé de rôle dans ces sociétés-là. Mais bon, c'était pas de la littérature. Mais la fantaisie, en revanche, en tant que littérature maintenant, pioche souvent dans les mythologies du monde entier. Donc c'est quand même une racine. Une racine plus évidente, déjà, c'est au Moyen-Âge, ce sont les cycles sur les héros. Vous savez qu'on a longtemps colporté, d'abord de manière orale, puis on a fini par les mettre de manière écrite, des cycles sur Roland de Rosseveau, sur Charlemagne, mais également sur Richard Cœur de Lion. Il y a pas mal d'années de ça, dans les années 90, 10-18 avait publié toute une série de cycles en poche, comme ça, de Charlemagne, Richard Cœur de Lion et tout ça. Là encore, c'est pas véritablement ce qu'on appelle du roman. C'est pas encore véritablement la littérature au sens moderne. Pour ce qui nous concerne, on peut toujours me contredire, hein, n'hésitez pas. Je veux dire, c'est un boulot que j'ai fait et je continue à découvrir des choses. Hein. Là, dans les notes que j'utilise, à la fois mes notes et Cartographie du Merveilleux, parce qu'en vérité, j'avoue que depuis que j'ai écrit ce bouquin-là, j'ai trouvé d'autres choses, évidemment. Donc, il n'est pas totalement juste, ce bouquin-là. J'ai découvert d'autres choses. Après, j'ai publié un gros bouquin qui s'appelait Panorama du Merveilleux, Panorama illustré du Merveilleux de la Fantaisie. Il y en a un exemplaire à la librairie. Ça doit être à peu près le dernier exemplaire en vente en France. Il est épuisé. Et donc, du coup, je suis en train de bosser à le refaire, cet énorme bouquin, parce que y a plein d'autres. Je continue à me passionner pour le sujet, et puis il y a plein d'autres. Des tas de choses que j'ai découvertes. Mais bon, déjà à l'époque, j'avais découvert qu'au XIIe siècle est paru en Angleterre et en France en traduction, c'est un bouquin anglais, par un certain Geoffrey de Monmouth. Alors je le prononce à la française parce qu'à l'époque, on traduisait les prénoms et les noms d'auteurs. Geoffrey of Monmouth, l'histoire des rois de Bretagne. Des Rerum Britannia, je crois que ça s'appelle, en latin, parce qu'à l'époque, on mettait le titre en latin quand même, ça faisait sérieux. Qu'est-ce qu'il fait, ce Geoffrey de Monmouth, dans l'histoire des rois de Bretagne? Ça n'est pas un roman, hein. C'est toujours pas véritablement du roman. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un ouvrage, un manuel historique, qui a une visée purement politique, à savoir que l'idée de nation est en train de naître au XIIe siècle en Angleterre. Par conséquent, les souverains ont besoin d'une certaine légitimité historique. Et cette légitimité historique, Geoffrey de Monmouth va la leur offrir avec un ouvrage qui reconstitue la généalogie de ces souverains. Généalogie entièrement inventée. Donc c'est censé être un ouvrage d'histoire. En fait, c'est un ouvrage de fiction. C'est de la pure propagande. On invente des ancêtres glorieux au roi d'Angleterre pour dire que, vous voyez, il est vachement légitime. D'ailleurs, il a eu tel grand ancêtre, etc. Alors, parmi les ancêtres, il y a un certain Brutus qui, soi-disant, serait venu de la ville de Troyes. Imaginez, un roi d'Angleterre qui vient de la ville de Troyes. Et puis, il y a... alors, évidemment, dans tout ce matériau pseudo-historique, il y a énormément de merveilleux. Brutus en question, par exemple, lorsqu'il est arrivé en Angleterre, il a lutté notamment contre deux frères, Gog et Magog, qui étaient de géants. Il a réussi à tuer les géants, il les a blessés et il les a ficelés à l'entrée de sa ville, Londres. Donc voilà, c'est très historique. Et puis parmi les rois légendaires, ancêtres du roi d'Angleterre, il y aurait eu un certain roi Arthur. Mais chez Geoffrey de Monmouth, le roi Arthur, c'est un personnage parmi d'autres, quoi. C'est un guerrier parmi d'autres. Ça va avoir un énorme succès, donc bravo, la propagande fonctionne à fond. Vers 1155, il y a un autre écrivain nommé Robert Wace qui écrit le roman de Brut, c'est-à-dire qu'il reprend ce fameux Brutus venu de Troyes, il l'extrait de l'histoire des rois de Bretagne de Geoffrey de Monmouth et il en fait, comme son titre l'indique, un roman, véritablement, c'est-à-dire une fiction longue et qui se présente comme étant une fiction. Donc le roman de Brut, s'écrit en vers hein, à l'époque. Côté français, parce que il y a évidemment, c'est quasiment un seul royaume, et puis de toute façon il y a totalement communication entre la France et l'Angleterre. Côté français, il y a un écrivain qui s'appelle Marie de France. Alors on ignore totalement si c'était une femme ou un homme, on ignore tout de l'identité de Marie de France, qui vers 1170 écrit « Les laits de Marie de France ». Donc c'est des espèces de poèmes semi-chantés dans lesquels on retrouve le roi Brutus venu de Troyes, on retrouve le roi Arthur et on retrouve également l'histoire de Tristan et Iseut. Donc à partir de Geoffrey de Monmouth commence à se développer un certain nombre de figures pseudo-historiques, légendaires, merveilleuses. Et puis bien entendu arrive vers 1180 un certain Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, lui aussi, c'est un écrivain politique. Chrétien de Troyes, il est dans l'emploi de diverses dames de l'aristocratie française, de la famille Plantagenet. Il se retrouve à la cour d'Aquitaine ou à la cour de Bretagne ou à la cour de Lorraine pour travailler. Et il débute pour toutes ses patronnes. Il débute des textes de merveilleux parce qu'il y a une crise politique importante à l'époque. Primo, les Plantagenêts sont en train de perdre pied petit à petit. Remplacé par une autre famille qui se dit royale, les Capétiens. Or, les Capétiens n'ont pas du tout la même vision politique. Les Capétiens, ils sont pour le pouvoir absolu et centralisé, c'est une nouveauté, tandis que les Plantagenêts, c'est la féodalité. Or, la féodalité, pardon, est en train d'échouer. Et il y a une classe sociale entière, celle des chevaliers, qui n'a plus de rôle de social. Plus tard, par les Capétiens et d'autres régimes politiques, les chevaliers vont devenir la noblesse. Mais pour l'instant, on est vers 1180, et il y a une grave crise politique, la société est en bouleversement complet, et les chevaliers, ils ne savent pas trop quoi faire, quoi. Et Chrétien III, dans ses textes, va prendre le roi Arthur, donc toujours chez Geoffroy de Monmouth, inventer toute une mythologie autour du roi Arthur. Mythologie que vous connaissez certainement tous, les chevaliers du roi Arthur, la quête du Graal, la table ronde. Donc il inscrit ça de manière totalement anachronique dans la religion chrétienne et dans la féodalité, et en glorifiant la caste sociale des chevaliers, puisque tous les héros du cycle arthurien, ce sont des chevaliers. Donc ça a une visée. C'est ça qui est intéressant, c'est que le merveilleux à la base, ça n'est pas une littérature d'évasion, c'est vraiment une littérature politique. Et en plus, c'est là qu'est inventée la littérature. Le roman de Brut de Robert Weiss, les textes de Chrétien de Troyes, ce sont les premiers romans. Voilà. Donc Cocorico, c'est dans le merveilleux que le roman a été inventé, c'est quand même pas rien. C'est étonnant de découvrir ça lorsqu'on fait une recherche sur la fantaisie. Chrétien de Troyes va terminer certains de ses romans, mais pas tous. Fréquemment, donc les textes sur Perceval, sur Lancelot, etc., sur Yvain, etc. Yvain, justement, est un texte qui est fini, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas finis. Son Perceval n'est pas terminé. Ça va avoir un grand succès. Alors, bon, évidemment, un grand succès, c'est beaucoup dire, hein. Dire ça va être lu dans les cours. Bon, évidemment, on n'imprime pas encore des livres. Voilà, et il n'y a que vraiment que la classe des chevaliers, justement, qui sait lire, bien entendu. Mais ça va quand même faire, pour cette époque, un grand succès, et un succès international. C'est-à-dire que on va lire les textes de Chrétien III en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne, etc., dans toute l'Europe. Et ça va donner des idées. Et d'autres écrivains vont reprendre les textes de Chrétien III, soit pour les adapter complètement, les réécrire, se les s'approprier. Il n'y a pas encore de droit d'auteur, hein. Souvent même on ne signe pas. Ou simplement pour les prolonger, les terminer. Toujours chez 10-18, dans les années 90, ils avaient publié un Parzival allemand, qui était le texte de Chrétien III traduit en allemand et terminé et retraduit en français. Il va y avoir donc une espèce de grosse vogue, une grosse mode sur ces récits qu'on appelle maintenant la matière de Bretagne, donc tous les récits autour du roi Arthur, Tristan et Iseult et tout ça. Le roi Brutus, d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'on l'a franchement oublié. Manque de bol pour lui, hein, c'est Arthur qui a été la vedette finalement. On était vers 1180 pour Chrétien III. Bon, les modes, ça passe, hein. Ça passe et surtout, ça évolue, les modes. La tradition arthurienne va durer extrêmement longtemps, hein. Mais elle va se transformer de diverses manières. Elle va notamment se transformer au XIIIe siècle sous la forme des journaux de voyage, ce qu'on appelle les travelogues. Un travelogue, maintenant, c'est un mot anglais et ça veut dire des récits par un journaliste d'un voyage, souvent. À l'époque, travelogue, ça voulait dire un écrivain qui raconte qu'il a été dans des endroits extrêmement lointains, genre jusqu'à Moscou, vous imaginez un peu. et qu'il a rencontré des êtres merveilleux qui n'ont pas de tête mais une bouche au milieu du torse, enfin des récits extrêmement historiques et bien documentés. D'autant plus, alors c'est amusant parce que ces récits totalement fictifs de grands voyageurs vont avoir une immense influence et vont avoir une influence sur les vrais voyageurs. À savoir que il y a d'abord la fiction, c'est étonnant quand même, il y a d'abord la fiction de voyage et ensuite les vrais voyages. Et il y a tellement d'abord la fiction de voyage que même les cartes vont être dessinées d'après les récits de voyage. S'imaginer à quel point elles sont fiables, les cartes, évidemment. Et puis, alors évidemment, on mélange des thèmes arthuriens dans ces récits de voyage. Et puis, il va y avoir, je regarde les dates parce que mes notes sont un peu dans le désordre, c'est pas très grave ceci dit, en 1485, en Angleterre, il y a un petit noble qui s'appelle Thomas Malory, qui est tout le temps criblé de dettes et qui est donc tout le temps en prison. Puisqu'à l'époque, et pendant encore très longtemps, va aller en prison pour dette. Et bon, bah, faut bien qu'il s'occupe en 1485, enfin dans ces eaux-là, pas la date exacte. Thomas Malory est une fois de plus en prison pour dette. Il faut bien qu'il s'occupe, ce monsieur. Et il se souvient de tous les récits, le roman de Brut, les récits arthuriens, etc. Je rappelle que c'était vers 1170, ces récits-là. Là, on est en 1485, donc très longtemps après. Ces modes-là sont vraiment presque éteintes, se prolongent plus que dans des récits populaires oraux. Et Thomas Malory, eh bien, il va écrire un énorme roman qui s'appelle Le Morte d'Arthur. Alors, c'est un espèce de mélange de français. La langue à l'époque anglaise, et c'est du normand, c'est un espèce de mélange de français et d'anglais, on va dire. Donc le titre, bizarrement, s'appelle Le Morte d'Arthur. En français, ça a été simplement traduit sous la forme de Le Roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde. Ça doit être chez La Talente, je crois. Je ne sais pas s'il y a une édition de poche. Parce que bon, la version, on ne peut pas le lire en anglais. Hein, je veux dire, c'est vraiment du normand, c'est pas de l'anglais. Hein, donc c'est pas franchement compréhensible. En revanche, c'est vachement bien. Et ça a fixé plein de choses. Malory a vraiment fixé plein d'éléments de la légende arthurienne, leur a donné une logique chronologique, a défini le caractère des personnages, on a inventé certains, a inventé certains nouveaux épisodes, a fait du tri dans cet imaginaire, dans cet imaginaire foisonnant. Un imaginaire qu'on retrouve aussi, par exemple, chez Rabelais, en France. Rabelais, il va commencer à publier une histoire qui s'appelle Pantagruel. Pantagruel, c'est l'histoire du fils du géant Gargantua. Il faut savoir que Gargantua, il est dans le légendaire français depuis très 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 longtemps. C'est vraiment vraiment une légende qui court dans toute la France et en fait dans tous les territoires plus ou moins francophones, je veux dire y compris jusqu'en Allemagne, en Suisse, etc. Ou en Italie, il y a des versions de Gargantua dans les parties plus ou moins francophones. Ensuite, l'année suivante, Rabelais donnera son roman Gargantua, donc il reviendra sur la jeunesse du père de Pantagruel. Il parlera aussi des parents de Gargantua qui sont Grand Gosier et Gargamel. Ce qui se sait moins, si vous avez jamais lu Rabelais, c'est qu'en fait, Gargantua, d'abord, avant Rabelais, il y avait déjà eu un premier roman, très très peu de temps, un an avant Pantagruel, il y a déjà un premier roman sur Gargantua, qui est anonyme à l'époque, le vrai nom, le nom de l'auteur, c'est Charles Billon, enfin bon, on s'en fiche, c'est publié évidemment. Mais donc Charles Billon avait déjà réuni des légendes sur Gargantua et Rabelais en a donné deux autres volumes. Et dans Gargantua, il y a le roi Arthur, car Gargantua, ses parents, Grand Gosier et Gargamel, ils habitent au Mont-Saint-Michel et ils sont des employés du roi Arthur. Et Gargantua va travailler longtemps pour le roi Arthur. On sait même combien de temps il a vécu, ça c'est dans Charles Billon qui explique qu'il a vécu 200 ans, 4 mois et 3 jours, quelque chose comme ça, enfin on le sait exactement. Grand Gosier et Gargamel sont enterrés à Tomblaine, à côté du Mont-Saint-Michel, enfin voilà, c'est très historique toujours. puisque encore et toujours, le roman à l'époque a visée politique, donc se prétend historique plus ou moins, tout en étant satirique. Voilà, mélange plein de modes. De nos jours, on oserait guère mélanger comme ça plein de modes narratifs différents. Mais en tout cas, vous remarquerez que dans tout ça, c'est quand même, Rabelais, c'est quand même assez important, on va dire, dans la langue française, de même que Mallory pour la langue anglaise. Et ben voilà, c'est vraiment en plein cœur des littératures du merveilleux. Et ça va continuer, cette évolution-là. Je fais un peu tout de mémoire, je regarde même pas le bouquin. Notamment, ça va exister, il va y avoir encore du travail littéraire sur le merveilleux du côté italien. Il y a un nommé Strapolara, bon, pas traduit, inconnu en France, et un nommé Giambattista Basile. Alors, Strapolara, il était romain et Basile était napolitain. Nous sommes au XVIe siècle. Strapolara, c'est le début du XVIe siècle et Basile, c'est la fin du XVIe siècle. Basile, il est traduit en France sous le nom du Comte des Comtes. Je crois que ce mot est en poche chez Point, quelque chose comme ça. Ça a été traduit, alors vraiment très très récemment. Hein. Ça a été traduit, j'en parle pas dans cartographie parce que ça n'existait pas en français à l'époque. Ça a été traduit à la fin des années 90. Et c'est très très intéressant à lire, Giambattista Basile. D'abord parce que ça se lit, bon, c'est traduit en français moderne, c'était écrit en napolitain. C'était un érudit napolitain qui a réuni les contes qui se racontaient à Naples et les a écrits dans la langue napolitaine. Bon, Dieu merci, on nous a traduit ça en français. Et c'est très très intéressant parce que la structure est en gigogne, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui commence à raconter un conte, et dans le conte, il y a quelqu'un qui commence à raconter un conte, et dans le conte, raconté par la personne qui racontait un conte, il y a quelqu'un qui raconte un conte, et ainsi de suite, c'est infernal. C'est exactement la structure des Mille et une nuits, et parce qu'en fait, il avait connaissance, Basile, il avait connaissance des Mille et une nuits déjà, et donc il a copié les Mille et une nuits pour la structure narrative. Il a même copié certaines histoires, parce que dans le légendaire napolitain, il y avait des histoires qui provenaient du Moyen-Orient et qu'on reconnaît plus ou moins des motifs ou des personnages des Mille et une nuits. Mais c'est plein de choses, le conte des contes de Basile. Donc là, on est fin XVIe siècle pour Basile, et au XVIIe siècle, dès le début du XVIIe siècle, donc juste après Basile, mais Basile n'est pas connu en France, hein, mais il y a, dans les mouvements intellectuels, il y a des modes, et de même que Basile a réuni en un énorme volume les contes napolitains, à l'époque, encore une toujours, je vous parle encore une fois de politique, au XVIIe siècle, les femmes n'ont pas de rôle, mais vraiment pas. Or, les femmes de l'aristocratie, elles sont très cultivées, et il leur est interdit d'avoir le moindre rôle. Qui plus est, on est sous une dictature en France, c'est Louis XIV, il y a une police secrète qui espionne les faits et gestes de tout le monde, il y a vraiment une chape politique extrêmement dure. À la cour, à Versailles, le langage est codifié, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas dire ce qu'on veut, il faut vraiment, c'est tout les attitudes, les gestes sont codifiés, c'est vraiment très très rigide. Et en réaction à ça, les femmes de l'aristocratie vont créer ce qu'elles appellent des salons. Bon, on connaît maintenant couramment ce que c'est qu'un salon, mais elles créent ce terme. Elles reçoivent chez elles, donc dans leur salon, pour discuter un petit peu plus librement qu'à la cour de Versailles. Bon, pas très librement quand même, parce qu'il y a des espions partout quand même. Donc il faut parler à mots couverts. Et puis il faut trouver des sujets de conversation. Parce qu'on ne peut pas parler de n'importe quoi. Donc il faut inventer des sujets de conversation. Et elles vont s'inspirer de ce que leur racontait leur gouvernante, à savoir donc en fait le légendaire populaire, qui a été transmis aux nobles par leur gouvernante. Elles vont s'inspirer de ça pour écrire ce qu'elles appellent des contes de fées. Bon, on sait tous ce que c'est de nos jours des contes de fées, évidemment, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer. Il va s'en écrire énormément, d'abord s'en raconter, puis s'en écrire. Alors les deux plus célèbres, évidemment, c'est La Belle et la Bête. Et alors là, je vais quand même regarder mes notes, parce que mon bouquin, parce que je sais plus lequel est le bon auteur. Alors, La Belle et la Bête, c'est par qui déjà? C'est par Madame d'Aulnoy, je crois. Alors, on va reprendre le cours du bouquin. Voilà, voilà, voilà. Donc, Madame d'Aulnoy, ah ben non, raté, j'avais tout faux. Donc, Madame d'Aulnoy, c'est l'oiseau bleu. C'est l'autre conte qui est relativement célèbre encore. Puis surtout, le plus célébrissime, c'est La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont. Ce sont des histoires qui, lorsqu'on les lit maintenant, elles nous semblent très polies et très conformistes. Et en vérité, il faut savoir les lire. Il faut passer sous la surface très très polie et conformiste pour s'apercevoir qu'en fait, elles sont très perverses et elles racontent beaucoup de choses, et notamment sur la condition sociale et la condition féminine. Il va s'en écrire et s'en raconter énormément. À la fin de cette période, c'est-à-dire en 1785, il va y avoir un abbé, dont je n'ai pas noté le nom, qui fréquentait ses salons depuis longtemps, va les réunir sous le nom du Cabinet des Fées. Il va y avoir énormément de volumes du Cabinet des Fées. Et ça va avoir un gros, gros succès, car et ça va devenir populaire, littéralement populaire. C'est-à-dire, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de bibliothèque. En revanche, il y a les colporteurs. Et ça, c'est vrai dans toute l'Europe. Hein. Les colporteurs, c'est des livres qui sont imprimés et qui sont distribués dans les campagnes partout. En Angleterre, c'est par le biais des ce qu'on appelle les market towns, c'est-à-dire les villes où se trouvent les marchés. En France, c'est plus ou moins ce système-là également. Donc, le jour du marché important, il y a un colporteur qui vient avec sa charrette pleine de livres et qui soit les loue, soit les vend. Il va y avoir tout un fonds de colportage qui va durer pendant quasiment 3 siècles, qui va se renouveler, se changer, et puis petit à petit vieillir. Et le Cabinet des Fées est une des bases du fonds des colporteurs, donc par conséquent va être lu extrêmement largement, et ce dans toute la France, mais aussi dans toute l'Europe. Et donc encore une fois, le merveilleux étant fer de lance de la littérature. Basilée, quand même, le Comte des Contes, va quand même finalement être, bon, pas traduit en français, mais va être traduit en allemand, va être traduit en anglais, et va être traduit en italien, en l'occurrence, puisque c'était du napolitain, donc il va aussi être traduit en italien, l'italien modernisé, si j'ose dire. Donc, le Comte des Contes de Basilée et les Contes de Strapolara vont quand même, à défaut d'être traduits en français, vont être lus quand même très largement. Entre l'influence de ces deux Italiens et des contes de fées des salons, notamment un très célèbre intellectuel français qui est au pouvoir du roi, qui dirige l'Académie française notamment, Monsieur Charles Perrault, c'est vraiment the intello français. Il va se piquer de faire un travail de ce qu'on appellerait de nos jours plus ou moins de l'ethnologie. Il va réunir des contes, comme vous le savez. Et en 1697, il a publié les contes de ma mère Loi. Donc tout ça, je vous le raconte un petit peu dans les ordres, mais bon, c'est toute la même période, quoi. Les contes de Fée de Salon, les contes de ma mère Loi de Perrault, et puis les recherches italiennes. Donc Perrault va collecter dans ses contes de ma mère Loi les récits transmis par la tradition orale, qui transforme en contes susceptibles d'être lus et appréciés à la cour. Parmi ces contes, y a La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge ou Cendrillon, par exemple, pour les plus célèbres. Enfin, ceux qui sont encore très 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 connus. Cette démarche va avoir vraiment une très grande influence. Là encore, les contes de Perrault vont intégrer le fonds de colportage en France comme en Angleterre ou en Allemagne. Et en Angleterre, on verra un petit peu plus tard, ça va être très important. Ça va être tellement important pendant très très longtemps qu'il faut quand même attendre, on est en 1697 hein, avec Perrault, on va attendre 1812 pour les frères Grimm, Jacob et Wilhelm, donc en Allemagne. Les frères Grimm notamment, ils vont faire le même travail, hein, véritablement. La première édition est même, c'est même des contes vraiment très crus. Après, un des deux frères va devenir très, très, très croyant, très chrétien, et donc il va réécrire passablement les contes et beaucoup les édulcorer. Mais la première version de Grimm, c'est quand même... les parents n'hésitent pas à vendre leur enfant ou des plans comme ça. Hein. Après, ils sont un peu plus réticents. Ils les vendent, mais en protestant au début, ils les vendent vraiment. Quoi. C'est Blanche-Neige, notamment, comme conte de Grimm. Enfin bon, il y a beaucoup, beaucoup de contes très, très connus. Et puis, sur cette influence, il y a un grand intellectuel danois, Hans Christian Andersen, qui écrit des romans de toutes sortes, des feuilletons de toutes sortes, et des articles également, et qui va commencer à écrire ses propres contes de fées. Mais Andersen, le premier recueil d'Andersen, c'est en 1835. Andersen a une grande originalité, et qui nous intéresse dans le sujet, à savoir l'histoire des littératures merveilleuses et quelle est l'origine de la fantasy. C'est que Andersen, c'est un écrivain professionnel, il vit de sa plume, et les contes, il les invente. Il a écrit une quantité phénoménale de contes, il n'y en a que 6 qui sont influencés par des contes traditionnels. Tous les autres sont parfaitement inventés par Andersen. Et si vous lisez de nos jours les contes d'Andersen dans le vrai texte, c'est-à-dire pas les versions édulcorées, etc., qui circulent depuis toujours, mais dans le vrai texte, il y a un côté chrétien un peu pesant dans certains contes, à la fin de la Reine des Neiges, par exemple. Mais dans l'ensemble, ça se lit comme des nouvelles de fantasy. Mais vraiment, c'est une langue moderne, et c'est des récits de merveilleux, de type de ce qu'on peut lire dans des anthologies de nos jours de fantasy. Hein. Il va comme ça travailler pendant très longtemps, son premier recueil en 1835, son dernier en 1872. Voyons, est-ce que j'oublie quelque chose ? Oui, j'allais oublier quelque chose d'important pour l'influence du merveilleux sur la littérature, à savoir que notamment la collecte des contes traditionnels par les frères Grimm, ça va trouver, vous allez dire que je parle tout le temps de politique, mais je fais exprès, ça va avoir une forte importance, une forte résonance sur le nationalisme allemand. Donc c'est pas innocent, hein, leur travail de trouver les racines de la culture allemande, de la culture germaine, hein, c'est qu'il y a une visée quand même nationaliste derrière. Et ça va également constituer l'une des racines du mouvement romantique. Donc influence importante évidemment sur la pensée moderne. En revanche, en France, le merveilleux après l'époque du conte de fées de salon, va disparaître. C'est pas dans la mentalité française qui est cartésienne, n'est-ce pas, prétendument. Et donc, il va bien y avoir quelques auteurs qui vont donner dans le conte de fées plus tard, la comtesse de Ségur, par exemple, ou Georges Sand, puis quelques autres. Hein. Il y a quelques contes par Théophile Gautier ou par Balzac, par Victor Hugo, mais vraiment pas grand-chose. Et le romantisme, on va l'hériter des Allemands. Donc on ne l'a pas inventé. Et puis, comme ça, le merveilleux en France, donc après je vais vous parler essentiellement du domaine anglo-saxon, et vous allez comprendre pourquoi, en France le merveilleux va disparaître. D'où d'ailleurs le fait que même jusque dans les années 1980, on ne traduisait même pas la fantaisie en France, tellement ce n'était pas dans notre culture, tout simplement. Alors il y a quelques exceptions de à droite à gauche, je pense à l'oiseau bleu de Maurice Maeterlinck, par exemple. Il n'est pas français et belge, vous me direz, ou La Vouivre de Marcel Aimé, mais il n'y a vraiment pas beaucoup. Il y a l'enchanteur de René Barjavel, mais il y a très très peu de choses en littérature du merveilleux en France. On s'est un petit peu rattrapé depuis quand même. Mais en revanche, le merveilleux va connaître vraiment une enfance anglaise. Pourquoi il va connaître une enfance anglaise ? Parce qu'en fait, le cabinet des fées et les contes de Perrault ont été traduits, donc comme je vous l'ai dit, en littérature de colportage anglaise, mais ils ont eu encore plus que la littérature de colportage, ce qui est déjà beaucoup. Ils ont aussi eu des éditions de luxe, je dirais, donc l'aristocratie aussi a lu ces œuvres-là. Et puis, ça a eu tellement de succès, et en particulier les contes de Perrault, qu'il va y avoir des adaptations, une adaptation extrêmement importante. C'est sous la forme de ce qu'on appelle les nursery rhymes, les rimes de, comment on appelle ça, enfin de nursery, on va dire, pour faire un anglicisme, de chambre de, voilà. Imaginez, c'est incroyable quand même. Depuis l'époque de Perrault, la première traduction des contes de Mémerlois, jusqu'à maintenant, va se développer une tradition de comptines enfantines. On en a quelques-unes en France, bien sûr, des comptines enfantines, je veux dire, une souris verte ou des trucs comme ça, encore que j'ai l'impression que c'est un ou qu'à des Roussel. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'enfants en France qui savent chanter qu'à des Roussel, donc je crois que c'est un peu en perte. Oui, vous croyez? Mais en tout cas, en Angleterre, c'est extrêmement fort, cette tradition. Et elle est née des contes de fées de Perrault notamment. On la retrouve notamment dans la musique, dans toute la musique pop et rock. On retrouve en Angleterre continuellement, depuis Genesis jusqu'aux Libertines, pour faire rapide, on trouve des influences et des citations de nursery rhymes. Et puis ça va influer évidemment sur l'imaginaire de la littérature anglaise. Ça a tellement de succès, les contes de ma mère Loire, que ben, il n'y en a pas assez. Je veux dire, Perrault, il a fait un recueil. Bah, pour le commerce, c'est pas terrible, quoi, un seul recueil. Alors que jusqu'à cela ne tienne, les Anglais vont en écrire d'autres, plein d'autres, pendant très longtemps. Tellement longtemps, en fait, que le mot de Merlois, Mother Goose, ça va devenir le nom de l'auteur. Et vont se succéder sous la signature de Mother Goose, plein de ce qu'on appellerait maintenant des nègres. Le plus célèbre des Mother Goose, et ça fait assez étrange quand on voit ça, il y a une église très très vilaine, très intéressante, à côté de la tour à Londres, Notre-Dame des Douleurs. C'était l'église préférée favorite de Dickens. Elle est très 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 vilaine. Elle a tout le tour du porche est constitué par des sculptures de crânes humains, très très ravissant. Et dans cette petite église de Notre-Dame des Douleurs, eh bien, il y a une plaque sur le mur. C'est la tombe de Mother Goose. Merlois est enterré à Londres, dites donc. C'est pas étonnant, ça ? Je suis sûr que vous le saviez pas. Hein. Moi-même, le jour où j'ai vu ça dans l'église, j'étais un peu surpris. Donc, c'est un patronyme qui va se passer d'auteur en auteur, hein, le Mother Goose. Et puis, le cabinet des fées, pourtant, il y en a pas mal de volumes, hein, du cabinet des fées, mais c'est pas encore suffisant. Ils ont le sens du commerce, hein, les Anglais. Et donc, ils vont écrire d'autres contes de fées. Ça va être la série des Fairy Books. Alors, il va y avoir le Blue Fairy Books, le Purple Fairy Books, le Pink Fairy Books, enfin, toutes les couleurs que vous imaginez, avec que des contes de fées. Et puis, en 1807, il y a un écrivain très célèbre à l'époque, Charles Lamb, qui, avec sa sœur Marie, donc Charles et Marie Lamb, vont écrire une série de contes adaptés de Shakespeare. Alors, je ne sais pas le titre français, en fait, je sais que ça existe en France. Enfin, les Tales from Shakespeare, c'est-à-dire qu'ils prennent les pièces magiques de Shakespeare et les adaptent sous forme de nouvelles, en fait. Ça se lit comme une nouvelle. Et c'est des auteurs très, très, très connus à l'époque, hein, Charles et Marie Lamb. Bon, ils font scandale en plus parce qu'ils sont fous. Donc ils sont régulièrement internés, enfin surtout Marie. Marie a assassiné leur mère d'ailleurs dans une crise de folie. Mais ils sont très très célèbres et ça va être un énorme best-seller et ça se voit encore d'ailleurs, les Tales from Shakespeare. Une fois même d'ailleurs dans un festival comme ici, à l'hôtel, j'ai été très surpris. Sur la table de nuit, il y avait une édition en français, une sélection des Tales from Shakespeare de Charles et Marie Lamb qui était offert. Aux gens, alors je sais plus c'était le Kyriade, je crois, qui offrait ça. Étonnant. Donc ça existe encore, on trouve même ça dans des chambres d'hôtel, dites donc, à la place de la Bible. Étonnant. Mais j'aurais dû noter le titre français, je ne l'ai pas noté. Cette tradition est telle que, bon, il faut savoir qu'on est en Angleterre, donc, à l'ère victorienne. Les Anglais, ils ont inventé, si j'ose dire, ils ont inventé le concept d'enfance. Et ils ont donc inventé la littérature pour la jeunesse. À cette époque victorienne, mais c'est une littérature très empesée, très bien pensante, généralement écrite par Madame Machin ou Madame Truc, c'est emmerdant au possible, quoi. C'est franchement illisible d'ailleurs, de nos jours, et un grand patron des arts, John Ruskin, qui était un homme assez riche, assez torturé aussi intellectuellement, et ça a vraiment été le grand patron des arts victoriens, celui qui a lancé les pré-raphaélites par exemple. En 18, il trouve que vraiment les contes pour enfants, il aime beaucoup les petits enfants, John Ruskin. Il a un problème sexuel très net, il a jamais couché avec sa première femme, et ensuite il va devenir le protecteur de Rose Latouche, une toute jeune fille de 15 ans. Bref, il aime bien les jeunes gens très très jeunes, et il trouve que la littérature pour la jeunesse, et là il a raison, que c'est franchement mais super emmerdant. Et il va essayer de donner l'exemple, et il va écrire en 1850 un conte de fées, Le Roi de la Rivière d'Or, et il va dire à tous ses copains écrivains, artistes, bah, faites comme moi, écrivez des livres pour enfants intelligents. qui prennent pas les enfants de haut, qui s'adressent vraiment aux enfants et qui leur parlent vraiment de la société. Et c'est assez révolutionnaire comme idée à l'époque, de faire des livres qui soient pas bien pensants, quoi. Et donc ce grand patron des arts va se faire le défenseur du conte de fées. Et c'est ainsi que des écrivains aussi célèbres à l'époque, en tout cas, que William Thackeray, William Thackeray, il va écrire La Rose et la Bague. Oscar Wilde, il va écrire toute une série de contes de fées. Pourtant, on peut pas dire que Oscar Wilde était un modèle de bien-pensance, n'est-ce pas ? Et sous le vernis chrétien des contes de fées d'Oscar Wilde, il y a évidemment plein de choses. Certains auteurs ou poètes pré-raphaélites vont écrire des contes de fées. Chaque auteur anglais s'empare des contes de fées, en donne une version très personnelle. Alors que de notre côté de la Manche, en France, on est à la fin du 19e, mais on a totalement perdu, malheureusement, quasiment perdu de vue la tradition, un peu le fantastique qu'on en fait, mais le merveilleux, on l'a vraiment perdu de vue. J'ai pas d'explication historique véritablement pour ça. Toujours est-il que, suite à ces contes de fées, les écrivains anglais, il y a vraiment une émergence du merveilleux en Angleterre. Et il va y avoir plein de grands classiques anglais qui vont être écrits à l'époque dans le style du merveilleux. Ça va être un autre grand écrivain scandaleux de l'époque, le révérend Charles Kingsley, qui va écrire les Water Babies, histoire d'un petit... pour vous donner une idée du côté réalisme social de ce genre de roman pour enfants, parce qu'il n'est pas traduit en français. Je vais vous parler de plein de choses pas traduites en français. Je vous prie de m'en excuser, mais pour cette raison culturelle particulière, on n'a pas traduit même les grands classiques anglais, souvent. On a traduit Peter Pan, mais alors pour un Peter Pan traduit, combien d'œuvres pas traduites ? Et notamment les Water Babies, qu'on trouve couramment en anglais, de nos jours encore. C'est l'histoire d'un petit ramoneur. Les ramoneurs, c'est vraiment la condition sociale la pire qui puisse être à l'époque, puisque pour des raisons économiques, les fabriques... Bon, il y a un boom immobilier à l'ère Victoria, et pour des raisons d'économie, les fabricants de maisons ont réduit la taille des conduits de cheminée, ce qui fait qu'un être humain adulte ne peut plus rentrer pour nettoyer, pour ramoner les cheminées, donc c'est les enfants qui sont obligés d'aller ramoner, vous imaginez l'horreur totale. Et donc c'est l'histoire d'un petit ramoneur qui tombe du toit et qui se tue. Ça commence bien comme bouquin pour enfants, hein, et qui tombe dans l'eau. Donc non seulement il est mort, mais il se noie, cherchez pas trop la logique, et au fond de l'eau, au fond de la rivière, il va rencontrer des êtres, des espèces de sirènes bébés, qui vivent au fond de l'eau, il va avoir tout un tas d'aventures qui tiennent autant de l'aventure magique que du commentaire social au fond de l'eau. C'est tout à fait lisible de nos jours, hein, on nous traduirait ça, il avait été question de le traduire chez Folio Junior, puis ça s'est pas fait malheureusement. En France, les universitaires de nos jours, les universitaires spécialisés dans la littérature victorienne, absolument tous vous diront que le premier auteur de fantasy, c'est William Morris. William Morris, c'est un pré-raphaélite de la deuxième génération, c'est en quelque sorte l'inventeur des arts décoratifs. Ça a été un grand peintre, écrivain, décorateur, artisan. Et effectivement, William Morris, en 1889 et 1896, il a écrit deux romans qui sont typiquement de la fantasy, qui sont typiquement pas traduits en français, et qui sont considérés par les universitaires français spécialistes comme étant les deux premiers bouquins de fantasy. Bon, ben, c'est complètement faux. C'est même faux à un point étonnant, puisque en 1870, un très très grand écrivain de l'époque, George MacDonald, donc un écrivain écossais, va commencer à publier une série de romans pour la jeunesse qui sont écrits de manière très sérieuse, c'est-à-dire il n'y a pas de fanfreluche, de trucs niais dedans, ils sont vraiment, et d'ailleurs du coup ça se lit très très bien de nos jours, sauf en français. Les romans de George MacDonald, vous allez comprendre pourquoi, à quel point c'est vraiment les précurseurs. Eh bien, c'est des enfants contemporains, c'est-à-dire victoriens, anglais, et qui rencontrent un magicien et qui se retrouvent projetés dans une contrée pseudo-médiévale où la magie existe et où il y a un combat contre, ou soit une quête à mener, soit un combat contre un méchant millénaire, etc. Bref, on est en 1870 et George MacDonald, ben, il fait exactement ce que fera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. Et lire MacDonald de nos jours, c'est étonnant parce que c'est vraiment du Tolkien, mais avant la date, évidemment. Évidemment aussi, il va y avoir un autre grand auteur de merveilleux, c'est Lewis Carroll, n'est-ce pas, ce révérend professeur de divinité à Oxford, qui a des amis. Alors, on a beaucoup inventé de choses sur Lewis Carroll. On a dit qu'il était pédophile avec les petites filles. Bon, c'est certainement faux, puisqu'il simplement il aimait les femmes très très jeunes, mais il avait des correspondantes qui avaient jusqu'à 30 ans d'âge, donc excusez-moi, c'est pas vraiment des petites filles. De même, on a prétendu, ça c'est une magouille touristique, on a prétendu qu'il était vraiment inscrit dans le paysage d'Oxford. Oui, non, il est de Sunderland, sa famille est une grande famille noble de Sunderland, seulement en France, effectivement, personne sait, ils sont très mauvais à Sunderland, ils n'ont pas de comité touristique, apparemment, le syndicat d'initiative doit être nul, parce que personne ne sait ce que c'est que Sunderland, ce qui est pourtant une des plus grandes villes d'Angleterre. Et en fait, tout l'imaginaire d'Alice est tiré de l'enfance de Lewis Carroll dans les environs de Sunderland. Et pas du tout d'Oxford. Mais bon, donc, influencé par ses souvenirs d'enfance, par les histoires qu'il a voulu raconter à certaines petites filles, et par ses souvenirs aussi des nursery rhymes, les comptines enfantines dont je parlais tout à l'heure, et donc cet auguste chercheur en théologie va écrire, et en mathématiques, va écrire particulièrement Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir, en 1865 et 1871. Un autre grand écrivain, un certain Rudyard Kipling, va publier Le Livre de la Jungle en 1894. C'est une histoire d'animaux qui parlent, c'est pas vraiment de la littérature terriblement réaliste, c'est donc plein de merveilleux. Donc il y a vraiment toute une tradition là, qui se met en place à la fin du 19e, en Angleterre, de récits de merveilleux, qu'ils soient féeriques ou d'autres types de merveilleux. Et puis ben, ça va se continuer. La reine Victoria meurt en janvier 1901, elle est remplacée par son fils Édouard. Eh bien, l'édouardienne, on continue à écrire du merveilleux et de la littérature pour enfants. C'est évidemment en 1906 Peter Pan de James Barry. Là aussi, il y a une sorte de tradition, de la même manière que John Ruskin aimait bien les jeunes gens, que Lewis Carroll aimait bien les jeunes gens. Vous savez sans doute que James Barry, lui, il était resté carrément enfant dans sa tête. C'était un célèbre dramaturge. Hein. Il était resté enfant dans sa tête. Et un jour, bah, il s'est mis à jouer avec des mômes à Hyde Park ou à Kensington Gardens, mais c'est la même chose. Donc à Londres, et puis bah, il est devenu copain avec ces mômes-là et avec les parents, puis bah, malheureusement les parents, d'abord le père puis la mère sont morts très 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 vite, donc il a adopté les 5 enfants Llewelyn Davies, et c'est à ces enfants-là, c'est avec eux qu'il jouait à Peter Pan. Et donc Peter Pan, qui est d'abord une pièce de théâtre avant d'être 3 romans en l'occurrence, il n'y en a pas qu'un, il y en a 3, c'était d'abord les jeux qu'il faisait avec les enfants Llewelyn Davies qui sont devenus ses enfants. Il y a eu d'autres écrivains, il y a eu Edith Nesbit, alors il y a quelques traductions chez Feuillot de Edith Nesbit. Et puis on commence à écrire, et là c'est une nouveauté qui nous intéresse évidemment dans notre recherche. Je vous rappelle que j'essaye de faire une biographie de ce que c'est que le merveilleux en littérature, et là brusquement on se met à écrire pour les adultes. Ah, là on s'approche de quelque chose. Bon, vous me direz, Chrétien de droite, c'était déjà pour les adultes, bien sûr, mais là en Angleterre on est parti d'une tradition pour enfants, de souvent des livres illustrés. C'est important de dire que le merveilleux, c'est pas le cas de la plupart des littératures. Il a vraiment ses racines dans l'enfance, dans la littérature pour la jeunesse et dans la littérature illustrée, puisque les Alice étaient illustrées, par exemple, évidemment. La plupart de ces bouquins-là étaient illustrés. Et souvent même, on a du mal à séparer l'illustration du texte de nos jours. Les illustrations de John Tenniel pour Lewis Carroll sont quasiment indissociables. Et puis il est né toute une tradition chez les graphistes de donner sa propre version des illustrations pour Alice, par exemple. Mais également en Italie pour Pinocchio. Pinocchio, c'est la même époque. Hein. En Italie, il y a une immense tradition d'illustrer Il y a régulièrement un illustrateur actuel qui fait sa propre version de Pinocchio. Ça va être le cas un petit peu moins sur Peter Pan, mais il va y avoir encore cette tradition sur d'autres textes après. Donc on commence à écrire pour les adultes. Il y a notamment Lord Dunsany qui va écrire énormément. Enfin, toute sa carrière, il va faire du merveilleux, mais selon les époques, il va écrire des merveilleux de manière différente. C'est un auteur assez important, en fait. On le connaît très peu en France, mais qu'il soit publié maintenant chez Terre de Brume. On le connaît assez peu, puis il y en a un chez De Noël. On le connaît quand même pas très bien. Il a été il a vraiment eu une influence, parce qu'il a eu une œuvre énorme. Il a eu beaucoup d'influence sur plein d'auteurs, notamment sur Chesterton ou plus tard sur Lovecraft. Donc toutes les traces oniriques qu'on peut trouver dans l'œuvre de Lovecraft, par exemple, alors que c'est de l'horreur, viennent de Dunsany. Et puis Dunsany, il a écrit des modes de fantastique merveilleux différents, et notamment il a écrit du merveilleux qui se passe à son époque à Londres, donc en ville, et où il y a des fées qui survivent toujours. Eh bien, ce merveilleux-là, ce qu'on appelle de nos jours la fantaisie urbaine, ça va renaître dans les années 1980 aux États-Unis, par exemple. Donc ça va sous l'influence de Dunsany. Donc c'est quand même un auteur important. Voilà, il s'écrit plein de choses. Je passe rapidement. Donc, Kipling, j'en ai parlé. C'est bon. Peter Pan, c'est bon. Dunsany. À cette même époque, c'est-à-dire la première moitié du XXe siècle, et surtout avant la guerre de 14, à cette époque, il y a une espèce d'éveil américain, à savoir que depuis la fin du XIXe, les Américains essayent culturellement de se trouver une identité distincte de celle d'Europe et notamment des Anglais. Les premiers grands écrivains américains sont des écrivains qui tentent d'écrire une littérature typiquement américaine avec des sujets américains. C'est Mark Twain, évidemment, c'est Herman Melville, c'est Nathaniel Hawthorne qui fait du romantisme mais à l'américaine, c'est Washington Irving, et tout cela écrivent du merveilleux, pas que bien entendu, mais tous écrivent du merveilleux. Washington Irving, c'est l'histoire de... Ah zut, voilà que les titres m'échappent. Le cavalier sans tête, Sleepy Hollow, voilà, le cavalier sans tête. Et puis, comment il s'appelle l'autre conte de ce monsieur qui s'endort, Rip Van Winkle, merci, qui s'endort au-dessus de Washington et qui se réveille un siècle plus tard ou quelque chose comme ça. Donc, il y a du merveilleux. Puis, Mark Twain a écrit un roman sur comique, mais sur le roi Arthur et ainsi de suite. Et donc le merveilleux est bien, ils sont quand même dans la culture anglo-saxonne, dans la culture anglaise, et donc le merveilleux est bien dans leur culture littéraire, alors qu'elle ne l'est pas dans la culture littéraire française et allemande, par exemple, et que même dans la culture italienne, elle n'est pas très 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 présente, même s'il y a Pinocchio, par exemple, d'un auteur de Florence. Entre 1904 et 1937... il va y avoir un auteur anglais, américain, nommé James Branch Cabell. Je le prononce à la française pour qu'on comprenne comment ça s'écrit. Il est strictement non traduit en France. Il a écrit une trentaine de bouquins, une trentaine de romans, qui sont la biographie de la vie de Manuel. Je vous le traduis en français. Cette saga relate la vie et les exploits d'un héros, qui est prétendument français. Alors c'est une France inventée par un Américain qui ne sait pas ce que c'est que la France. Alors ça se passe dans un comté qui s'appelle le Poictesme, nom bien français, bien connu. Il se prénomme Manuel, ce qui n'est pas très français en vérité, donc bon, mais c'est pas grave. De toute façon, on ne l'a jamais lu, M. Cabell, en France. C'est très excentrique, c'est très satirique. Je trouve que c'est pas très lisible de nos jours, mais ça n'engage que moi. Mais en tout cas, il commence en 1904, et il ne trouvera véritablement le succès qu'en 1919, avec un roman qui s'appelle Jürgen, roman qui est beaucoup plus sérieux que d'habitude, et qui, en tout cas, va lui avoir, avant de lui valoir le succès, va lui valoir beaucoup d'ennuis, puisqu'il va avoir un procès pour obscénité. Pour Jürgen. Alors j'ai lu Jürgen, autant je peux comprendre pourquoi la Fleur du Mal ou Madame Bovary ont eu un procès pour obscénité à la rigueur, mais Alors Jürgen, incompréhensible. D'ailleurs, ils ont perdu leur procès. Jürgen a gagné, l'auteur a gagné, parce qu'il n'y a pas d'obscénité dans Jürgen. Hein. C'est un roman pour adultes, c'est tout, quoi, voilà. De merveilleux, mais pour adultes. Donc en 1922, Monsieur Cabell va avoir gagné son procès et il va être devenu du coup très très célèbre et du coup là, il va pouvoir vendre vachement bien ses bouquins. À la même époque, enfin un tout petit peu avant en l'occurrence, il y a un auteur qui s'appelle L. Franz Böhm, qui est un loser. Il a fait tous les métiers possibles, il a écrit tous les textes alimentaires possibles et imaginables. Bon, bah pour gagner sa vie, un jour il écrit un bouquin pour enfants, on est en 1900, c'est Le Magicien d'Oz, et le succès est colossal, évidemment, comme vous vous imaginez. Il était temps, parce qu'il était très fatigué, ce pauvre monsieur Böhm, il était vraiment très fauché. Le Magicien d'Oz va rencontrer un succès absolument phénoménal. C'est le seul Böhm qu'on traduit en France, il est chez Folio Junior de nos jours. On n'a jamais traduit les autres. Sauf qu'en fait, il y en a un par an, jusqu'en 1977. On nous en a traduit un, il y en a 77 tomes, vous imaginez. On a vraiment un problème avec le merveilleux, quand même, je trouve. Hein. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous lisibles, hein, les 77, hein, mais, et je ne les ai pas tous lus, bien entendu. Mais en tout cas, M. Böhm va en écrire un certain nombre. Malheureusement, M. Böhm, il est très fatigué physiquement, il va mourir assez vite. Mais qu'à cela ne tienne, il n'est pas question d'avoir un Noël sans un nouveau Oz. Et donc jusqu'en 1977, différentes personnes vont se succéder. C'est d'abord une dame qui va en écrire beaucoup plus d'ailleurs que Frank Böhm. Et apparemment, ils sont très bien. Son illustrateur, parce que comme typiquement en littérature du merveilleux, il y a un illustrateur attitré qui a donné le look au personnage, etc. John R. Neal. Donc M. Neal va en écrire un lui-même. Il va y avoir quelques autres prolongateurs. Et puis, dans les années 70, ça va se finir sous forme de bandes dessinées, qui sont très belles d'ailleurs, qui sont très chouettes. Et puis, bah, malheureusement, bon, voilà, cette tradition est morte à la fin des années 70. Ceci dit, il y a des facsimilés de nos jours aux États-Unis qui sont faits des anciens. Et puis, il y en a tellement, vous imaginez, 77 tomes. Bon, commercialement, il y a de quoi exploiter comme fond. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'il y ait eu si peu de films adaptés de Oz, alors que c'est un tel succès et tellement ancré. Imaginez à quel point c'est ancré dans la culture américaine. Pendant 77 années, chaque Noël, il y a un best-seller de Oz. Enfin, il me semble que pour nous, c'est inimaginable. Quoi. On n'arrive pas. C'est comme s'il y avait un Harry Potter qui paraît tous les ans, quoi. Ni plus ni moins. C'est fou, quoi. Et bon, bah, on n'a pas ça, malheureusement. C'est dommage. Alors, une des explications au fait qu'en France, on n'a pas traduit pendant très longtemps la fantaisie, même au moment où la fantaisie, ça existait véritablement de manière commerciale, c'est-à-dire les années 70-80, bon, j'y viendrai à la fin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas traduit ça? Parce que, en fait, la fantaisie en tant que genre littéraire, bon là, je vous parle du merveilleux en littérature de manière générale, la fantaisie en tant que genre littéraire séparé, construit commercialement comme une étiquette, comme le roman policier, l'espionnage, le western ou la science-fiction, ça va naître seulement en 1966, donc très longtemps après, et ça va naître dans le même milieu que la science-fiction. Or, il se trouve que les amateurs de science-fiction, ils n'aiment pas le merveilleux en général, et ça s'est vérifié depuis le début. Il s'est développé aux États-Unis, dès le début du XXe siècle, une littérature populaire. Ça existait déjà en Europe, c'était sous forme de fascicules. Alors, ces fascicules ont divers noms, que ce soit en Allemagne, en France ou en Angleterre, et différents formats. Il y a eu un format de fascicule populaire qui a existé aux États-Unis, les dime novels, parce qu'ils étaient vendus un dime. Et puis, on a développé des nouvelles façons de fabriquer, notamment un nouveau papier très bon marché. Qu'on a rapidement surnommé le pulp, parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était directement la pulpe du bois. Il s'est développé des magazines pas très chers de littérature populaire, où se publiaient des tas de nouvelles de toutes sortes, dans ces pulp magazines. Et puis, rapidement, les pulp magazines se sont spécialisés. Alors, à l'origine, ils étaient généralistes. Zirgozy, par exemple, le premier, avait des nouvelles de toutes sortes. Nouvelles d'aventures, mais de toutes sortes. Ils se sont petit à petit spécialisés. Il y a eu un pulp d'horreur, de fantastique, Weird Tales. qui était celui qui se vendait pas, alors que les magazines pulp, ça se vendait, celui fantastique se vendait pas très bien. Il y a eu des magazines, évidemment, pulp de science-fiction, puisque le mot science-fiction a été créé dans un de ces magazines, pour un de ces magazines. Et puis, bah, dans ces magazines de pulp, il a commencé à y avoir des gens qui écrivaient du merveilleux, de l'aventure bizarre, notamment dans les Tarzans de Garland Burroughs, il y a beaucoup de merveilleux. De même, aucun texte de Lovecraft, qui est un écrivain d'horreur très particulier, aucun ne relève véritablement de la fantasy, mais il y a une influence de Dunsany dont il y a forcément quand même des éléments merveilleux dans son œuvre, et d'onirisme en l'occurrence. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est Démons et Merveilles, qui est vraiment, qui est très proche de Dunsany, donc très proche de la fantasy chez Lovecraft. Et puis, il y a deux auteurs qui commencent à écrire des choses un peu étonnantes. Qui sont qu'on peut classer en merveilleux, mais qui sont américains et qui sont donc un merveilleux bien musclé, très particulier. Il y a un auteur qui s'appelle Robert E. Howard, qui écrit des nouvelles, puisque c'est toujours des nouvelles sur un très 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 lointain passé, avant même l'Antiquité, avant la voilà. Dans des temps qu'on a oubliés. Il est d'ailleurs très influencé, ce monsieur Howard, il est influencé par James Branch Cabell, dont je vous parlais tout à l'heure, puisque un des royaumes légendaires où évolue son personnage Conan s'appelle le Poitain. Influence du poictisme de monsieur Cabell. Donc il raconte les histoires d'un barbare, Conan, et puis d'autres personnages. Bon, il se suicide à l'âge de 33 ans, fin de sa carrière, et il sombre dans l'oubli très rapidement. Bon, il va te redécouvrir après, évidemment, hein, mais dans l'immédiat, il sombre dans l'oubli. Il y a d'autres auteurs qui écrivent comme ça, un peu de merveilleux. Il y a notamment un très très jeune homme de San Francisco, un nommé Fritz Leiber. Avec son copain, on est en 1939, son meilleur ami, Harry Fisher, ils se sont inventés, chacun une personnalité imaginaire, exactement comme on ferait de nos jours dans du jeu de rôle, mais le jeu de rôle évidemment n'existe pas encore. Et donc Harry et Fritz sont chacun inventé un personnage. Et puis ils commencent à écrire des histoires sur leurs personnages. Et puis les parents d'Harry déménagent à New York. Donc les deux mômes sont séparés par un continent. Ils continuent à s'écrire l'un l'autre. Et puis la fibre de l'écrivain titille vraiment Fritz Leiber. Harry Fisher n'est pas devenu un écrivain. Fritz Leiber va rédiger des nouvelles avec leurs personnages. C'est le guerrier Fafford et le souricier gris. Alors je ne sais plus qui était d'ailleurs le voleur. Le souricier gris s'était calqué sur Harry Fisher et Fafford, le guerrier blond du Nord, s'était calqué soi-disant sur Fritz Leiber. C'est des anti-héros, c'est très très chouette ces nouvelles-là. C'est le cycle des épées, c'est chez Bragelonne maintenant, ça doit en poche quelque part, j'imagine. Leiber place quelques nouvelles de Pfeffer de le souricier gris, mais voilà, la revue où il publie Unknown est repris par un éditeur de science-fiction, Monsieur Campbell, et Monsieur Campbell il n'aime pas le merveilleux, et donc il persuade Monsieur Leiber d'écrire de la science-fiction. Voilà, il va persuader souvent les écrivains de merveilleux, les oriente plutôt vers la SF. Il y a toujours cet antagonisme curieux entre la SF et la fantasy. Et donc, en l'occurrence, ça c'est une curiosité, c'est qu'il n'y aura jamais de pulps de fantasy. Ça n'existe pas. Il y aura un peu de ce qu'on peut voir comme étant du merveilleux, à savoir Leiber et les Conan de Howard dans les pulps. Mais il n'y aura jamais de pulps spécialisés dans ce domaine, c'est un peu surprenant. Alors qu'il y a vraiment des pulps spécialisés dans des trucs invraisemblables, genre les histoires de gangsters de Chicago, il y a un pulp spécialisé, enfin des trucs comme ça. Bien, avec les histoires de boxe, il y a un pulps, etc. L'histoire d'aviation, il y en a plein, mais il n'y a pas de pulps pour le fantastique, il n'y a que Wartels, et pour le merveilleux lui-même, il n'y a pas de pulps spécialisés. On va revenir en Angleterre, nous sommes dans les années 30, grosso modo. Il y a notamment un humoriste très connu en Angleterre, nommé A.A. Milne, on est toujours dans la tradition anglaise, qui raconte des histoires à son môme. Son fils s'appelle Christopher Robin. Il a des nounours en peluche, enfin il y a différentes peluches, et son père lui raconte des histoires à base des peluches. Puis un jour, son père rédige des nouvelles racontant les histoires des nounours en peluche de son fils. C'est les histoires de Winnie l'ourson. Alors en France, Winnie l'ourson, malheureusement, on est sous le joug de Monsieur Disney, qui a totalement transformé Winnie l'ourson, qui s'est même octroyé les droits d'ailleurs, grâce à un tour de passe-passe juridique récent. Et en fait, si vous trouvez, malheureusement, c'est pas publié en ce moment, mais ça a longtemps été publié au livre de poche jeunesse, si vous trouvez les deux recueils de nouvelles de Milne sur Winnie l'ourson, c'est vachement bien et c'est pas pour les enfants. C'est vraiment pour les adultes, c'est de l'humour nonsense, c'est totalement absurde, ces bestioles sont complètement stupides. Par exemple, Winnie l'ourson, il vit sous le nom de Monsieur Machin. Ça ne veut pas dire qu'il s'appelle Monsieur Machin. C'est juste qu'il y a un panneau au-dessus de sa porte où il y a marqué Monsieur Machin. Voilà, c'est tout comme ça, c'est tout pris au pied de la lettre, c'est absurde, c'est super drôle. Et en tout cas, ça a eu un succès colossal en Angleterre. Ça a été illustré par un grand illustrateur qui s'appelait Ernest Shepard. Et là, encore une fois, on trouve donc un chef-d'œuvre de merveilleux qui vient d'une histoire racontée par l'auteur à ses enfants et qui en plus va être rapidement indissociable du dessin de l'illustrateur, à savoir Monsieur Shepard, avant que Walt Disney n'arrive. Dans le même genre, il y a également, je trouve plus la date là, je sais pas où c'est passé, est-ce que je l'ai dans mes notes? Non, j'ai pas la date exacte, mais enfin c'est pas très grave, ceci dit, on est toujours dans ces années-là. Il y a un écrivain anglais très sérieux qui s'appelle Kenneth Graham. Monsieur Graham, il est connu parce qu'il a raconté sa jeunesse en trois volumes. C'est un genre littéraire, hein, anglais, l'autobiographie. En France, autobiographie, pas un genre littéraire très, très particulièrement, enfin. On ne considère pas comme un genre à part. En Angleterre, c'est vraiment un genre à part. Et donc, il a raconté son enfance en trois très très beaux volumes. Enfin, j'en ai lu deux. Il est devenu très très connu pour ça. Mais c'est un auteur très connu, politicien, enfin politologue, pardon, qui lui donne des conférences très célèbres et très, très sérieuses. Il a un grand fan, ce monsieur Kenneth Graham. C'est le président des États-Unis. Et un jour que Kenneth Graham est en tournée de conférences aux États-Unis, Roosevelt demande à lire le dernier bouquin écrit par Kenneth Graham. Et ce que vient d'écrire Kenneth Graham n'a pas trouvé d'éditeur. Parce qu'en fait, Monsieur Graham, il a eu un fils qui est malheureusement mongolien. Il lui raconte des histoires à son fils et il a fini par les rédiger sous forme de nouvelles, qui sont de toute beauté d'ailleurs. C'est Le vent dans les saules. The Wind in the Willows. Mais bon, on lui répond, écoutez, monsieur Graham, vos histoires de taupes et de rats qui parlent au bord de la Tamise, bon, c'est gentil, mais enfin, qu'est-ce qu'on va jamais vendre ça? Donc, on ne peut pas vous publier, monsieur Graham. Le sang de monsieur le président des États-Unis ne fait qu'un tour, il trouve que c'est vachement bien, il va voir un imprimeur, et puis comme c'est un grand démocrate, Roosevelt, il lui dit, vous m'imprimez ça, hein, c'est un ordre. Donc l'imprimeur, il publie Le vent dans les saules. Je pense qu'il n'a pas eu vraiment eu le regretter parce que c'est un succès colossal et qui se prolonge jusqu'à maintenant. Donc je pense que l'éditeur américain qui a le copyright, il doit pas trop s'en plaindre finalement de l'autoritarisme de Roosevelt. Et là encore, c'est quelque chose de typiquement anglais. A.A. Milne et Shepard, alors ça a été publié dans les années 20, Le vent dans les saules. Et Milne et Shepard sont très très fans du Vent dans les Saules, et profitant de l'énorme succès de Winnie l'ourson, ils décident de relancer Le Vent dans les Saules, qui est tombé un petit peu dans l'oubli déjà 10 ans après. Et Shepard va aller voir Kenneth Graham, qui est toujours vivant à l'époque, bien sûr. Son fils, par contre, s'est suicidé. Et il va aller voir le bord des Tamises qu'aimait Kenneth Graham, et il va illustrer Le Vent dans les Saules. Et de nos jours, les illustrations de Le Vent dans les Saules par Shepard sont assez indissociable du texte de Graham, même si, comme pour Pinocchio ou pour Alice, il est né une véritable tradition chez les illustrateurs pour enfants de faire de publier sa version du Vent dans les Saules. Mais je pense que l'édition française chez Gallimard doit être par Shepard, je suppose. Parce que ça a été traduit quand même en France tardivement, mais ça a été traduit. Alors, on arrive dans les années 40. Deux grands auteurs qui sont traduits en France et qui sont en poche maintenant. Alléluia, parce qu'il y a des choses formidables qui se passent en France maintenant. Il serait temps, puisque c'est paru dans les années 40, vous imaginez, on vient juste de les publier en France, en poche en France. C'est d'abord un dramaturge anglais à succès, nommé T.H. White. Qui se souvient de la morte d'Arthur, le morte d'Arthur de Malory. Vous vous souvenez de, je vous ai parlé de ça il y a longtemps, c'était paru en 1485, c'est un classique de la littérature, c'est une des bases de la littérature anglaise. Eh bien, M. T.H. White, il a l'idée d'en faire une version pour enfants, et il publie ça, j'ai la flemme de vérifier la date, mais enfin bon, c'est la fin des années 30, ça s'appelle en français La pierre dans le roc. Vous connaissez La pierre dans le roc, si, si. C'est Merlin l'enchanteur de Disney. Il l'a adapté ainsi. Et puis, gros succès pour enfants. C'était paru à la Bibliothèque Verte à l'époque, en France. L'épée dans le roc. Et puis, en fait, M. White s'est pas arrêté là. Il a retravaillé son texte pour le faire plus adulte. Et puis, il a écrit des suites. Il en a écrit 5 romans en tout. Qui ne sont pas parus à l'époque en France, mais qui ont eu un succès phénoménal. Il y a même eu une comédie musicale Excalibur à Broadway. Enfin bon, d'ailleurs, T.H. White est mort d'une crise cardiaque dans sa cabine de transatlantique pour se rendre à Manhattan pour voir une représentation de la comédie musicale. Le cinquième volume est un peu chiant, à vrai dire. Mais les 4 premiers volumes sont vraiment très très chouettes et ça retrace toute l'enfance et les débuts du roi Arthur. Donc Et T.H. White, avec cette œuvre, qui en France s'appelle Excalibur et qui est publiée au livre de poche fantasy, enfin maintenant, il a vraiment remis sur le devant de la scène de l'imaginaire populaire les histoires arthuriennes, qui étaient passées dans la culture générale, mais qui n'étaient plus exploitées ni dans les littératures, ni rien. Et là, vraiment, il l'a remis en avant. Un autre auteur important de l'époque, c'est Mervyn Peake. Mervyn Peake n'était pas un très illustrateur, il n'était pas écrivain à la base. Et puis, c'était quelqu'un de très talentueux et très tourmenté. Et il a écrit un énorme roman qui se passe dans un royaume imaginaire, Gormenghast. Mais en fait, non, ça ne se passe pas dans le royaume imaginaire. Ça se passe dans le château, uniquement dans le château. Parce que ce château est tellement immense que ça forme quasiment un royaume à lui-même. C'est complètement étrange comme roman. Donc c'est la genèse du futur souverain Titus dans ce château de Gormenghast immense avec toutes les magouilles. Et Mervyn Peake va en écrire un deuxième volume. Et puis malheureusement, il va être atteint de la maladie d'Alzheimer, donc il n'y finira pas le troisième volume, mais très très tardivement, le volume va être terminé par des héritiers de Mervyn Peake. C'est maintenant Gormenghast et tout, et les deux autres sont publiés chez qui ça doit être chez Point. Oui, c'est chez Point. Oui, c'est chez Point que c'est plus. Ça vient juste de là au début d'année. Hein, c'est vous dire qu'on est au point de la modernité. Enfin, c'était chez Phébus depuis longtemps, hein, ceci dit. Mais en poche, ça vient juste de paraître. C'est très, 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 très beau. C'est vraiment complètement, complètement étrange. Il y a bientôt une exposition. À la maison d'ailleurs, le musée de la science-fiction et des voyages imaginaires à Yverdon, en Suisse. Va y avoir une grande exposition de Mervyn Peake, de ses tableaux et de ses dessins. C'est une première en Europe continentale. Donc voilà, deux grands, grands, grands auteurs de merveilleux. Et puis, à la même époque, une autre tradition, la tradition du professeur d'Oxford, bon, professeur de linguistique, celui-là, qui raconte des histoires à ses enfants. Donc, c'est vraiment une tradition anglaise. Bon, lui, il fait les illustrations lui-même, vous me direz. Ceci dit, Lewis Carroll dessinait lui-même aussi au début. C'est un certain John Ronald Reuel Tolkien. Enfin, je le prononce à la française, hein, vous m'excuserez. On va pas... Je ne sais même pas comment ça se prononce. Ça doit se dire Tolkien, je suppose. Ce monsieur Tolkien, il écrit à la fin des années 30 un petit roman pour enfants sur une peuplade qu'il appelle les Hobbits, qui sont une espèce d'anglais fantasmés qui habitent sous terre dans un petit pays tranquille, alors que partout ailleurs il y a des dragons, des elfes, des nains, enfin des choses inquiétantes. Évidemment, c'est un auguste professeur de théologie et de linguistique. Les éditeurs ne connaissent pas trop. Il envoie ça à Allen & Unwin, qui est une toute petite boîte universitaire londonienne. J'imaginais envoyer un livre pour enfants à un éditeur universitaire. C'est pas vraiment le bon éditeur pour ça. Il se trouve qu'heureusement, je ne sais plus si c'est M. Allen ou M. Unwin, il a son fils dans les parages, qui est ado. Il fait lire ça à son gamin et son gamin trouve que c'est complètement super, The Hobbit. Et donc Allen Unwin, en 1937, publie The Hobbit, Bilbo le Hobbit, et ça se vend pas du tout. Parce que c'est quand même un peu bizarre, puis c'est pas franchement l'éditeur pour ça. Qu'à cela ne tienne, malgré tout, M. Tolkien, entre-temps, a lu. Alors je sais pas si j'ai la date par contre. Il faudrait peut-être que je me décide à mettre mes notes à jour. En tout cas, il a lu entre-temps une œuvre finlandaise d'un universitaire finlandais qui s'appelle Elias Lönnrot. Cette œuvre s'appelle « Kalevala ». Monsieur Lönnrot a écrit à fin politique. Et oui, tiens, on y retourne à la politique. À savoir qu'il y a des revendications nationalistes en Finlande à l'époque, donc au début du XXe. Or, la langue finnoise n'est même pas rédigée. C'est une langue orale uniquement. Donc, Monsieur Lönnrot, qui est un linguiste, va inventer la graphie moderne du finnois, ce qui va évidemment nettement améliorer et avancer la cause nationaliste finlandaise. Et puis, pour vraiment ancrer l'idée près de tout le monde qu'il y a une vraie nationalité, qu'il y a une vraie identité finlandaise, que c'est pas juste une province soit de la Suède, soit des Russes selon les invasions, mais qu'ils existent. Et Dieu sait qu'ils existent, puisque leur langue est carrément unique. Enfin, ils ont effectivement une culture particulière. Eh bien, Elias Lönnrot, s'inspirant de ce qu'a fait Andersen autrefois, ou les frères Grimm, donc on y revient, va recueillir dans tout le pays les contes traditionnels et les rédiger sous la forme d'un énorme roman, donc le Kalevala. C'est disponible en France chez Gallimard. Et le Kalevala va vraiment être quelque chose vraiment de phénoménal. Ça va vraiment faire effet, vraiment. D'ailleurs, la Finlande va obtenir son indépendance. Et c'est pas le moindre des effets que... Enfin, l'indépendance de la Finlande est très liée au Kalevala, réellement. Il y a un effet de ce roman sur la réalité politique. Et toujours est-il que M. Tolkien... donc, c'est un roman merveilleux, bien entendu. Il y a des sorcières, il y a des objets magiques. Enfin, c'est vraiment du merveilleux, le Kalevala. Il y a des dieux, etc. Et puis toutes les créatures féeriques du folklore finlandais. Monsieur Tolkien, qui est professeur de linguistique et qui étudie particulièrement les langues norroises, donc le finlandais entre autres, a lu le Kalevala, a trouvé ça formidable. Je ne sais plus la date de parution du Kalevala, mais c'est un peu avant la guerre de 14. Il va avoir une idée assez bizarre. C'est que Brodan, quand même, Allen & Unwin, ils ont pas bien vendu Bilbo le Hobbit, mais enfin, ils voudraient bien un deuxième tome, histoire de peut-être relancer la vente. Donc, ils ont commandé ça à M. Tolkien. Et le professeur Tolkien, il commence à inventer d'autres histoires dans ce même univers, de développer ça, et puis il s'amuse à inventer des langues imaginaires, parce qu'il est linguiste, et donc c'est sa passion. Et puis, il se toque d'un truc un peu curieux. Je vous rappelle qu'on est dans les années 30. Les années 30, c'est une période historiquement extrêmement curieuse et dramatique, puisqu'elles sont sous l'ombre portée à la fois de la guerre de 14-18, qui a tué toute une génération et qui a fait un traumatisme social et culturel très, très, très particulier, et sont également sous l'ombre de la prochaine guerre, car ils savent déjà qu'il va y avoir. Depuis 1926, on sait qu'il y aura une deuxième guerre mondiale. Et donc les années 30 sont vraiment sous cette espèce de peur continuelle que il va y avoir une autre guerre, voilà. Comment on pourrait y échapper? Et M. Tolkien veut donner à l'Angleterre l'équivalent du Kalevala, c'est-à-dire un roman extrêmement puissant qui redonnerait une âme nationaliste et mythique à l'Angleterre. Bon, entre nous soit dit, bon, il est bien rêveur, Monsieur Tolkien, l'Angleterre n'avait pas du tout besoin de ça. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Donc il écrit ce que de nos jours on appelle le Silmarillion, et puis il commence à travailler sur Le Seigneur des Anneaux, il va y travailler très longtemps. Alors, on va reprendre les dates. C'est pas les dates de lui que je veux, c'est les dates de son copain Lewis, voilà. 150. Et Le Seigneur des Anneaux, ouais, ok, d'accord. Tolkien, ce professeur d'un collège d'Oxford, il est à Merton, à Oxford. Parce qu'il y a il y a plein de collèges différents à Oxford. Il a d'autres copains dans d'autres collèges, dont deux écrivains. Enfin, le théologien Clive Staple Lewis et un écrivain de thriller religieux qui s'appelle Charles Williams. Alors, Charles Williams est illisible. C'est incroyable d'être à ce point illisible de nos jours. Le thriller religieux, c'est pas un genre littéraire qui a vraiment bien survécu. Mais par contre, Monsieur Lewis... et M. Williams, ils lisent les textes que n'arrêtent pas de pondre et de retravailler, de relire, etc., leur copain, le professeur Tolkien. Et ça lui donne des idées, d'autant plus que Lewis a eu un grave traumatisme dans sa carrière récemment. Nous sommes en 49 ou 50, ou 48, je ne sais plus. C'est un théologien. Il avait des théories très particulières, enfin, il était très connu, il avait des théories. Et puis un jour est venu faire une conférence à Oxford, une dame, une théologienne, déjà vous imaginez, une femme théologienne, déjà c'est bizarre. Et cette dame a foutu en l'air toutes les théories théologiques de Lewis. Donc un choc psychologique profond. Il va aller au-delà de ce choc et, influencé par les écrits de Tolkien, il va écrire d'abord deux romans pour la jeunesse, avec un substrat chrétien, bien entendu. Ça sera Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, si mes souvenirs sont bons du titre complet en français, et sa suite Prince Caspian, c'est le cycle de Narnia. Le premier va paraître en 1950. Tolkien est un peu agacé, d'ailleurs. Il faut dire qu'il y a de la rivalité entre Tolkien et Lewis, parce que l'un est catholique converti et l'autre est protestant, anglican, et puis Lewis publie ses romans pour enfants avant que Tolkien ait enfin fini quelque chose à proposer à Helen Unwin, donc Tolkien est un peu piqué au vif, il accélère un peu le pas, et en 1954, enfin, puis 1955, la suite de Bilbo le Hobbit est publiée par Helen Unwin, c'est trois pavés monstrueux, franchement illisibles, bizarroïdes au possible, et ça se vend pas du tout, bien entendu. C'est Le Seigneur des Anneaux. Vous imaginez Le Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est vachement bizarre comme bouquin. Vous oubliez ça chez un obscur petit éditeur anglais universitaire, vous imaginez le chiffre de vente. C'est pas terrible. Mais enfin bon, ça va quand même être lu, quand même, Le Seigneur des Anneaux. Que je ne me trompe pas de date, plom, plom, plom. Donc c'est 54-55 qu'est publié Le Seigneur des Anneaux en Grande-Bretagne. Il va avoir du succès, bien entendu, comme vous le savez forcément, mais seulement en 1966. Qu'est-ce qui se passe en 1966 ? Il faut savoir que aux États-Unis, les droits d'auteur ne sont pas protégés, et ce jusqu'en 1976. Ce qui signifie quoi ? Ce qui signifie que certes, le copyright, ça existe, mais c'est une invention des capitalistes, et donc il faut payer le copyright. C'est-à-dire, si vous voulez protéger les droits de votre œuvre intellectuelle sur le territoire des États-Unis, il faut payer des droits auprès de la librairie des congrès. Vous pensez bien que Helen et Unwin, ils n'ont pas été protégés pour les États-Unis, les droits de leur machin invendable, hein, faut pas rêver. Il y a un fan de science-fiction, malin, qui a lu Le Seigneur des Anneaux, qui trouve ça vachement bien, et il le pirate aux États-Unis. Nous sommes en 1966, et ça fait un carton monumental. Ça se vend, mais colossalement. Ça se vend d'ailleurs tellement que, quand même, faut pas être complètement idiot, il y a un autre éditeur, dirigé par un autre fan, qui va voir M. Allen Unwin et qui achète les droits. Donc Donald Wolheim n'a plus les droits de publier Le Seigneur des Anneaux en pirate, et c'est Lynn Carter qui publie Le Seigneur des Anneaux aux éditions Ballantine de manière officielle, et ça se vend encore mieux. Ça se vend tellement bien que les éditeurs ils vont se dire, mais si on publiait d'autres trucs du même genre, mais c'est quoi comme genre? Parce que c'est vraiment bizarre, Le Seigneur des Anneaux quand même. Alors bon, on publie le Hobbit, c'est une évidence. On va publier tous les fonds de tiroir de Tolkien. On va le presser. On fait un recueil de ses nouvelles, de quelques rares nouvelles qu'il a publiées. On publie même une conférence de lui. Enfin voilà, on publie tout ce qu'on peut. Et puis, Lyd Carter, ce jeune fan, lui, il a une bonne culture de la littérature du merveilleux que je viens de vous raconter. Et donc, il crée une collection. Et non seulement il crée une collection, mais il crée un mot. Il crée le mot fantasy. Et c'est Lynn Carter qui crée l'étiquette de fantasy, l'étiquette commerciale de fantasy qui va être sur les rayons américains de librairie au même titre que les polars et la science-fiction. Donc la fantasy. Et qu'est-ce qu'il fait pour alimenter son catalogue ? Eh bien, il réédite tout ce que je viens de vous raconter. George MacDonald, William Morris, James Branch Cabell, il va même trouver des machins invraisemblables, je ne sais pas où il les a trouvés, il va même trouver par exemple le cycle de Evangeline Walton, c'est chez Pocket en France, c'est pas très bon, c'est une trilogie, c'est une auteure galloise qui a auto-édité ça dans les années 50. Et ça s'est tellement bien vendu qu'elle n'a jamais publié le troisième tome, parce que c'était invendable. Et bien, Lynn Carter, il met la main sur Madame Walton, je sais comment il a trouvé cette princesse-là, et il réédite les deux premiers tomes aux États-Unis en poche, et il lui publie évidemment le troisième tome, et elle en écrit un quatrième. Il trouve un autre auteur gallois qui est plutôt spécialisé en littérature historique, mais qui a publié trois petits bouquins, plus ou moins contes. Entre Contes de Fées et Cap et d'Épée, c'est le cycle des Derrigny par Catherine Kurtz, c'est aussi en France chez Pocket de nos jours, et du coup il va faire écrire à Catherine Kurtz, jusqu'à la fin de sa vie elle va écrire des Derrigny, allez. Moi j'ai lu que la trilogie d'origine, donc je ne sais pas ce que vaut le reste, je ne suis pas sûr que ça soit terrible. Il a bonne fibre commerciale. Et puis monsieur Wolheim, le mec qui avait publié Le Seigneur des Anneaux, il va pas se laisser faire non plus. Bon, il s'est fait piquer Le Seigneur des Anneaux forcément, mais il fait pareil. Il va récupérer à droite à gauche dans la littérature anglaise et américaine tout ce que je vous ai raconté et bien d'autres choses. Notamment par exemple Lynn Carter, je crois que c'est Lynn Carter qui a publié Lone in the Mist de Hope Mirrlees. Qu'un bouquin qui est paru en 1926 d'une très jeune femme très riche, très mondaine, qui était dans toutes les réceptions et qui était très scandaleuse parce qu'elle était lesbienne, elle vivait avec une vieille archéologue, et malheureusement sa compagne est décédée, et du jour au lendemain Hope Mirrlees a disparu de la société, elle s'est retirée, on l'a plus jamais vue. Et quand, en 76, ou dans ces eaux-là, Lynn Carter a réédité Lone in the Mist, Hope Mirrlees, l'auteur, était toujours vivant, elle ne l'a jamais su. Ça a été piraté par les Américains, elle n'a jamais su que c'était... Elle est morte juste après. Ça a été réédité en anglais, maintenant, de nos jours. C'est pas paru en France, malheureusement. C'est un bouquin très, très chouette, qui est une des influences de Neil Gaiman, par exemple. Il a fait la préface de la réédition. Bref, nous sommes donc début des années 70. Wolheim et Carter ont publié des tonnes de réédité des tonnes de choses. Bon, c'est bien de rééditer, mais on voudrait en vendre d'autres, s'il vous plaît, Monsieur Carter. Faites-en donc écrire. Et donc, Lynn Carter, il va se tourner vers des auteurs américains contemporains de sa génération, donc des auteurs de science-fiction surtout. Et leur dire, ça serait bien que vous m'écriviez des trucs dans le même genre. Et puis Donald Wolheim va faire pareil, va dire, écrivez-moi des trucs dans le même genre. Un des premiers qui a été écrit ainsi, c'est le cycle de Terre-Mer par Ursula Le Guin. C'est une première œuvre originale écrite, entre guillemets, dans le genre, sauf qu'elle est de qualité, évidemment. Il y en a eu plein qui n'étaient pas de qualité. C'est le cas du cycle de Shannara par Terry Brooks, que vous trouverez par pile entière chez Bragelon. Et qui est absolument fascinant, c'est un best-seller depuis les années 70. Je n'ai lu que le premier est extraordinaire. C'est Le Seigneur des Anneaux dans le désordre. il a pris des scènes dans Le Seigneur des Anneaux, puis il les a recomposées dans un autre ordre, et puis il a fait un roman, puis depuis il écrit des chanaras continuellement. Alors je sais pas ce que vaut le reste, mais le premier c'est du pur plagiat, quoi. C'est étonnant, mais c'est un best-seller. Il y a une autre personne, Judith Lynn Del Rey, des éditions Del Rey, un éditeur de poche, créé par son mari, qui elle aussi va se passionner pour la fantasy, parce que ça se vend, donc quand même c'est bien la fantasy. Elle va s'adresser à plein d'auteurs. Il faut bien comprendre que c'est ça qui est d'ailleurs rigolo et étonnant, c'est qu'il y a une pression commerciale cynique qui crée, ça ne retire rien à la qualité de cette littérature, en vérité, bien entendu. Mais curieusement, c'est une littérature qui l'a sous cette étiquette fantasy, c'est une pression commerciale qui la crée. C'est très très étonnant comme phénomène. Il n'y a pas d'autre littérature qui est poussée aussi vite et aussi récemment. Et notamment, Madame Del Rey va faire quelque chose de très très bien. Elle va se souvenir de Fritz Leiber. Vous savez, le gamin de San Francisco dont je vous parlais tout à l'heure avec Pfeffer et le souricier gris. Eh bien, elle va retrouver Monsieur Leiber, qui est un écrivain science-fiction, qui écrit de temps en temps de la science-fiction ou de temps en temps du fantastique. Il a des problèmes d'alcool, Monsieur Leiber. Donc, sa carrière, c'est fait ça. Donc, ça, c'est un roman, puis ça, c'est de l'alcool, puis ça, c'est de l'alcool, et ainsi de suite. Mais par contre, à chaque fois qu'il écrit, il est génial. Hein. Sincèrement, c'est un écrivain fabuleux. Donc, il écrit du merveilleux, de la fantastique ou de la science-fiction, c'est waouh. Et donc, elle réédite les quelques nouvelles qui existaient de Pfeffer et du Souricier Gris, et puis elle en fait écrire d'autres, plein d'autres, quelques autres à Fritz Leiber. Je crois qu'il y a, je sais plus, il y a 5 volumes, je crois, en tout, quelque chose comme ça. Lynn Carter, pour sa part, redécouvre Conan le Barbare de Howard. Le problème c'est qu'Howard il est con, il s'est suicidé à 33 ans, il a pas laissé beaucoup de textes, quoi, c'est chiant, quoi. C'est pas grave, hein. Allez, Lynn Carter avec son copain Sprague de Caen, ils vont récupérer les textes et puis ils vont en écrire eux-mêmes. Puis avec les notes de blanchisserie de Howard, ils vont écrire des nouveaux Conan, et puis avec les autres nouvelles de Howard, ils vont les transformer en Conan, et puis enfin bref, il noie ce pauvre Howard sous des flots et des flots de faux Conan. Ça va durer jusqu'à maintenant, puisque l'édition chez Bragelonne en 3 volumes de Conan par Howard, c'est la première fois chez Bragelonne en France et puis aux États-Unis chez un autre éditeur, c'est la première fois au monde qu'on publie enfin les vrais Howard, les vrais Conan de Howard tout seul, pareil écrit par Sprague de Caen, Lynn Carter et plein d'autres. Ceci, ça va avoir un succès tellement énorme qu'on va écrire plein d'autres sous Conan. Dans les années 80, là on était dans les années 70, dans les années 80, toujours aux États-Unis, il va y avoir une nouvelle génération, c'est-à-dire des personnes, des écrivains qui ont lu cette fantasy, qui ont lu toutes les publications de Del Rey, Wellheim et Carter, et qui vont vouloir en écrire, souvent chez ces éditeurs-là, et qui donc vont essayer de trouver une certaine originalité. Et là il va y avoir un phénomène assez cruel. C'est surtout des femmes qui écrivent à l'époque de la fantasy, et elles vont souvent pas réussir à faire carrière ou être complètement dépassées, parce que il suffit que, et là je n'exagère absolument pas, il suffit que Barbara Hambley, par exemple, typique de cette génération là très bonne écrivaine, Barbara Hambley a publié un roman un jour, disons une histoire qui se passe à San Francisco de nos jours, avec une jeune informaticienne qui est contactée par un musicien d'un autre monde, parce que dans cet autre monde qui ressemble un peu à la Terre du Milieu de Tolkien, il y a un danger monstrueux, mais c'est un danger de type un peu lovecraftien. Et donc l'informaticienne passe dans le monde magique pour lutter contre des monstres lovecraftiens. Je vous le résume brutalement, et c'est bien mieux que ce que je raconte, hein, je vous rassure. C'est même vachement bien. C'est chez Folio, ça. C'est le cycle d'Arvars chez Folio. Il y en a 3 chez Folio, il y en a 5 de paru aux États-Unis, mais on en a eu 3 en France. Mais toujours est-il que voilà, Barbara Hambley, elle invente des interactions entre genres. Et 2 mois après, vous avez c'est plus une idée originale, c'est devenu un cliché, parce qu'il y a eu 1000 autres écrivains qui ont fait la même chose, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a, sous la pression commerciale, il y a une accélération de la fantasy, l'idée nouvelle avancée en début de mois, c'est déjà devenu un cliché à la fin du mois. C'est infernal, c'est incroyable. Alors il y a beaucoup de déchets évidemment dans cette littérature, mais il y a aussi plein de bonnes choses. Pocket, on a un petit peu traduit, quand même. Et puis dans les années 90, il se passe plein de choses dans les années 90 en l'occurrence. Aux États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore une autre génération qui, elle, a lu la fantasy historique, la fantasy des années 70 et la fantasy des années 80, et qui donc veut apporter sa pierre à l'édifice, mais qui veut faire un peu original, évidemment. Il se trouve que beaucoup de ces jeunes gens, c'est un hasard historique étonnant, beaucoup de ces jeunes gens étaient originaires de Minneapolis, ville américaine peu intéressante pourtant, et que beaucoup de ces jeunes gens étaient de très bonnes familles et sont donc allés faire leurs études à, alors je ne vous prononce pas correctement, mais Bronmyr, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une des grandes universités de la côte Est, privée. Il n'y a pas de voyelle dedans, donc je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un mot en gallois. Donc ils se retrouvent tous ces jeunes gens de Minneapolis dans cette université dont je ne reprononcerai pas le nom. J'ai demandé à ces gens, je les connais, à ces auteurs, je leur ai demandé de me dire comment ça se prononce. J'ai toujours pas réussi à le prononcer. Je ne sais pas très bien comment ça se prononce. C'est très curieux. Mais c'est quelque chose dans le genre Bronmyr. Donc ils se retrouvent là-bas. Ils retrouvent aussi des étudiants qui viennent un peu partout de la côte Est, notamment de New York. Et notamment une toute petite jeune fille, toute menue, toute fragile, toute blonde, qui s'appelle Terry Winling, qui n'est pas une jeune fille de bonne famille, qui au contraire est une jeune fille qui a été violée par son père, c'était du white trash, sa famille a été violée par son père et s'est enfuie chez elle, toute jeune. Elle a travaillé, elle a commencé à publier des illustrations, et extraordinaire, alors qu'elle est hyper fragile de santé, elle a réussi à se payer des études à Bronmyr, c'est extraordinaire, la volonté de cette fille, elle s'appelle Terry Winling, et Terry Winling va devenir l'éditrice, au sens de directrice littéraire, de toute cette génération, va découvrir plein d'auteurs, va vraiment avoir un rôle crucial. En général, dans l'histoire littéraire, je trouve qu'on ne parle pas assez des éditeurs. Or, dans l'histoire de la fantasy, il me semble qu'ils sont vachement importants. Les trois que je vous ai cités tout à l'heure, là, Carter, Wellheim et Del Rey, et puis maintenant, Terry Winling, ces gens-là n'auraient pas été là, la fantasy ne serait pas là, ou ne serait pas ce qu'elle est, c'est évident. Et notamment, Terry Winling les incite, ses copains et copines, les incite à trouver des thèmes originaux, notamment à faire de la fantaisie qui ne se passe pas tout le temps dans le Moyen-Âge comme Tolkien, mais qui se passe peut-être, je ne sais pas, à la Renaissance, par exemple, ou à l'Antiquité. Il y a eu des auteurs qui ont fait ça avant déjà, mais il n'y en a pas eu beaucoup, donc elle les incite à le faire beaucoup plus. Elle les incite aussi à revenir aux contes de fées. Et donc il y a un vrai revival du conte de fées auprès de ses auteurs. Et puis elle les incite aussi à s'inspirer de Lord Dunsany dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc à faire ce qu'ils vont appeler de la urban fantasy, c'est-à-dire de la fantasy du merveilleux, avec des fées, pour parler clairement, mais de nos jours à New York par exemple, ou dans une ville canadienne. Ou voilà, elle va découvrir comme ça un écrivain canadien qui s'appelle Charles de Lint, qui est très 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 peu publié en France, mais ça c'est pas la faute des Français, c'est la faute de Charles de Lint qui est canadien et qui donc déteste les Français. Donc malheureusement c'est mon écrivain favori, mais il est raciste par rapport aux francophones, c'est un peu dommage. Donc il y a très peu de Lint en France, c'est vraiment dommage, alors que c'est un best-seller, vraiment un gros 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 auteur. Et donc vraiment Charles de Lint et Terry Winling et quelques autres auteurs inventent cette fantaisie urbaine dont on n'a pas beaucoup beaucoup d'exemples en France. On a Le Dernier Magicien de Megan Lindholm chez Mnemos par exemple, qui est très très chouette. Enfin, que chez Pocket aussi d'ailleurs. Il y a les œuvres de Neil Gaiman aussi dans ce style-là. Et justement, à la même époque, années 90, il y a toute une génération d'anglais qui généralement vont devenir des scénaristes de comics, c'est-à-dire qu'ils vont émigrer aux États-Unis pour révolutionner les comics. C'est évidemment Alan Moore, Neil Gaiman et puis plein d'autres de nos jours, comme Bill Willingham par exemple, puis plein d'autres encore. Et parmi eux, donc, il y a Neil Gaiman qui a envie, lui et quelques autres de ses copains, mais même Alan Moore a écrit de la prose, il a écrit un roman et plusieurs nouvelles, et puis il est encore en train de travailler un roman là, en ce moment. Ce qu'ils ont envie de faire, ces auteurs de la nouvelle génération, c'est de réinventer la fantasy comme si Tolkien n'avait pas existé. Parce que Tolkien, le problème dans la fantasy, c'est que c'est une espèce de grosse montagne et qu'on vous incite toujours à écrire du sous Tolkien, quoi, en quelque sorte. Et eux, ils se disent, mais non, non, non. Si on faisait comme si Tolkien n'était pas là, Et donc on se faisait influencer, mais par les auteurs, tous ceux dont je vous ai parlé avant, tous ceux qui avaient été réédités par Carter, tous les auteurs anglais et un petit peu les américains, qui sont avant Tolkien. Et donc ils essayent, il y a comme ça toute une génération, sous l'influence à la fois de Gaiman en Angleterre et de Terry Winling à New York, qui essayent de faire les choses différemment. Ils commencent à être publiés en France, hein, ces gens-là, c'est Stephen Brust, chez Nemos et chez Folio. Il est de Minneapolis, il est vraiment typiquement. Il y a, comment elle s'appelle, Hélène Kushner, qui est chez Folio et chez Kalman Levy. Moi-même, je vais publier l'unique roman de Terry Winling, je le publie en février. Ça s'appellera L'épouse de bois. Elle n'écrit qu'un seul roman, mais il est très, très, très beau. C'est la fantaisie urbaine, mais pas urbaine. C'est très curieux. C'est la fantaisie urbaine, c'est-à-dire que ça se passe de nos jours, avec le genre de fées qui ont pu survivre à l'avancée des humains, de la civilisation, mais ça se passe dans le désert, au-dessus de Tucson, dans l'Arizona. Donc, c'est l'effet des arroyos, l'effet des cactus, l'effet lièvre, l'effet pigeon. C'est très, très, très beau, très, très chouette, très magique, mais très curieux, parce que ça se passe dans le désert, au-dessus d'une grande ville américaine. C'est très, très, très beau. Et puis, dans les années 90, y a un auteur d'Oxford. Oh, encore un auteur d'Oxford, un nommé Philip Pullman, qui est déjà connu dans le domaine de la jeunesse et qui va publier une trilogie qui va tout de suite connaître un succès colossal, surtout par le bouche à oreille. Il y a vraiment un succès énorme. Comment ça s'appelle en France ? D'ailleurs, c'est les Royaumes du Nord, La Croisée des Mondes, ouais. Je ne me rappelle jamais quel titre français, parce qu'ils ont utilisé le sous-titre anglais et pas le sous-titre principal. Enfin, bref, vous connaissez Philip Pullman de toute façon. Et puis juste derrière Pullman était juste en train un gros succès, qu'en 1997, il y a une jeune dame chômeuse écossaise qui a touché une subvention pour écrire et qui envoie son roman, son premier roman pour enfants à 19 éditeurs qui le refusent. Le roman est accepté aux éditions Bloomsbury, qui est un éditeur intello anglais de poésie et de littérature, mais aussi un petit peu de jeunesse quand même. Bloomsbury publie le premier Harry Potter de J.K. Rowling. J'ai pas besoin de vous raconter la suite parce que bon, maintenant c'est un tout petit peu connu. Et n'empêche que ça a changé évidemment le paysage parce que du coup ça a remis en avant la pratique de fantasy pour la jeunesse. Et puis maintenant, même les éditeurs français peuvent plus faire semblant de pas savoir ce que c'est de la fantasy. Alors, autre phénomène, pourquoi est-ce qu'on a enfin de la fantasy en France ? Bon, déjà, parce qu'il ne faut pas être que con. Donc les grands éditeurs, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais attendez, il y a d'énormes best-sellers en Angleterre, aux États-Unis, ça fait 30 ans. Et dites-moi, monsieur Gérard Klein, vous n'en avez jamais publié, comment ça se fait ? Ou monsieur, qui vous voudrait ? Pourquoi Gérard Klein et les autres n'ont jamais publié ? Parce que c'était des auteurs, des écrivains et des directeurs de collection de science-fiction qu'ils détestaient la fantasy. Gérard Klein déteste toujours la fantasy. Il est chez Robert Laffont. Donc il n'y a jamais eu de collection de fantasy chez Robert Laffont, alors que Robert Laffont voulait une collection de fantasy. Mais bon, ça s'est pas fait. Mais tous ces vieux directeurs, tout à fait très bons directeurs littéraires pour la science-fiction, ont pris leur retraite ou sont morts. Ils ont été remplacés par des très jeunes gens, vraiment très jeunes, la plupart. Je suis un vieux, moi. Je suis vraiment le vieux de cette génération. Les autres, ils ont commencé, c'est hallucinant. Quand ils avaient 23 ans, enfin, c'est effrayant. Les nouveaux directeurs de chez Mnemos, de chez Folio, de chez Gélu, de chez De Noël, ils étaient tous incroyablement jeunes. Et ben, c'était des jeunes gens qui avaient lu de la science-fiction, bien sûr, mais qui avaient lu de la fantasy, du fantastique, avaient joué aux jeux de rôle, c'est super important, évidemment. Voilà. Et qui donc ont eu envie de publier non seulement la science-fiction, mais de la fantasy, sans carcan de genre, et puis qui ont eu envie aussi de publier des Français, ou en l'occurrence d'en écrire, étant Français. Et donc il s'est mis brusquement à y avoir des écrivains, comme Fabrice Collin, par exemple, qui se sont mis à écrire de la fantasy, alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'écrivain français de fantasy, ou quasiment pas. Donc il y a vraiment, là, depuis la fin des années 90, une vraie révolution, quoi. Il y a une vraie littérature qui est née, et que même en France, ouais, il y en a, voilà. Et voilà, j'ai fini la conférence pile à l'heure.